Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Des habitations modestes et coquettes, à l'image de cette maison témoin, c'est là que seront logés des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Sauf que ces logements ne se trouvent pas en banlieue de Londres, mais à 6500 km au sud, à Kigali, au Rwanda. Après 2 ans de batailles juridiques et politiques, le Parlement britannique a approuvé en début de semaine un projet de loi controversé d'expulsion des migrants illégaux vers la capitale rwandaise. Le Premier ministre conservateur, Rishi Sunak, s'en félicite et il l'assure, tout est prêt.
The first flight will leave in 10 to 12 weeks. We've put an airfield on standby, booked commercial charter planes for specific slots. The truth is, we need innovative solutions to address what is a global migration crisis.
À Portland, au sud du Royaume-Uni, les demandeurs d'asile qui résident sur cette immense barge redoutent de devoir bientôt monter dans un charter pour une destination qu'ils n'ont pas choisie.
Je préfère mourir que d'aller au Rwanda. Je serais allé au Rwanda si j'avais voulu y aller. Je suis venu ici.
Des ONG et les Nations Unies dénoncent une loi qui porte atteinte aux droits de l'homme.
Cette nouvelle législation entrave sérieusement l'état de droit au Royaume-Uni et crée un précédent périlleux à l'échelle mondiale.
Rishi Sunak va-t-il inspirer d'autres pays ? En décembre dernier, il était chaleureusement accueilli à Rome par la première ministre italienne et son homologue albanais qui ont passé un accord. L'Italie délocalisera des migrants en Albanie. Alors la loi Rwanda va-t-elle faire des émules en Europe portée par la montée de l'extrême droite ? La politique migratoire européenne est-elle arrivée à un point de bascule ?
3 experts pour ce débat. Didier Lesqui, bonsoir, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Selon vous, Didier Lesqui, cet accord migratoire conclu par le Royaume-Uni avec le Rwanda est techniquement possible, même s'il a encore des obstacles juridiques à lever. Le sujet commun à toute l'Union européenne, selon vous, c'est comment renvoyer dans leur pays d'origine les migrants qui ne relèvent pas du droit d'asile. Camille Lecoz, à côté de vous, directrice associée du think tank Migration Policy Institute, avec l'accent. Selon vous, avec cette loi Rwanda, un cap est franchi. L'Europe risque de se lancer dans une course à l'externalisation de l'asile. Mais ce n'est pas que ça qui va arrêter les migrants. Il y a une illusion du principe de dissuasion. Et enfin, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir monsieur. Selon vous, l'on va vers une multiplication de ces accords migratoires car le sens du vent a changé en Europe avec le basculement des opinions publiques et du centre de gravité politique de l'Europe vers, ou plutôt confronté à la poussée de l'extrême droite. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin.
2200 places de rétention seront prévues au Royaume-Uni pour des immigrés clandestins dans l'attente donc de leur expulsion vers le Rwanda. Ces migrants seraient renvoyés par charter, on l'a entendu. Des charters qui ont déjà été réservés, selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Alors, Didier Lesqui, justement, est-ce que cette loi, pour vous, elle va s'appliquer ou est-ce qu'il va y avoir des difficultés à son application concrète, réelle ?
Écoutez, je crois que le diable est dans les détails. Pour l'instant, on ne voit pas très bien quels sont les modes d'application concrètes, qui seront les officiers de protection. Ce serait donc peut-être des officiers de protection, comme on dit, rwandais. Et à partir de là, ça veut dire que les Rwandais garderaient ceux qui relèvent de l'asile au Rwanda. Et ceux qui ne relèvent pas de l'asile, ils repartent où ? Tout ça me paraît pour l'instant beaucoup d'annonces. On va voir très précisément ce qui se passe. Mais je pense que, indépendamment de...
Mais les charters vont décoller. Rishi Sunak a dit ils décolleront en juillet.
Oui, enfin, ce n'est pas la première fois, du reste, qu'un gouvernement anglais dit que des charters vont décoller. Et à chaque fois, il y a des procédures juridiques qui sont mises en œuvre, etc. Mais je crois que le problème, il faut quand même replacer tout ça dans son contexte. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que la majorité de l'immigration dans l'Union européenne et en Angleterre en particulier, est d'abord une immigration légale. Et que tout le problème dans l'ensemble des pays, c'est à côté de cette immigration légale qui est particulièrement importante, on peut reprendre les chiffres. En 2012, le nombre de nouveaux titres de séjour dans l'Union européenne, c'est un million et demi, si vous voulez. On est monté à 3,5 millions. Voilà. Et se rajoute à cela une immigration qui est désorganisée et qui est utilisée par les passeurs, et c'est ça qui mobilise les opinions publiques, et c'est cela que l'Angleterre veut arrêter, parce que l'Angleterre, l'année dernière, c'est 700 000 nouveaux titres de séjour.
Entrée légale en 2023. Camille Lecoz, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher cette application ? Parce que Rishi Sunak dit, tout est verrouillé, tout est bordé, il y aura des juges, en effet, pour qu'il y ait des recours avant éventuellement l'expulsion de ces migrants, donc tout a été organisé.
Oui, je pense que vraiment, il y a, tout reste à voir aussi. C'est vraiment une espèce de saga autour de cet accord. On en parle depuis 2 ans avec cette fixation sur cette idée d'un avion qui décollerait de Londres pour aller à Kigali avec des demandeurs d'asile. On voit bien que c'est loin d'être le cas. Là, il reste un certain nombre d'obstacles. D'abord, il va y avoir des recours à chaque fois pour chaque personne qui va être mise sur ces vols. Les compagnies aériennes aussi. On attend une compagnie aérienne qui se porte volontaire pour participer à ce dispositif. Et puis ensuite, c'est la situation Rwanda. Comme Didier Leschi le rappelait, les demandes d'asile de ces personnes vont être examinées par les autorités rwandaises. Or, certes, il y a eu des efforts qui ont été faits au cours des dernières années pour améliorer le système d'asile rwandais. Néanmoins, on est loin d'un système, aux standards internationaux. Donc, on a tous ces obstacles, et au-delà de la faisabilité de cet accord, je pense qu'il y a vraiment une question sur le sens de est-ce que ça va servir à quelque chose quand on sait que ça n'a absolument pas un effet dissuasif sur les personnes qui pourraient partir.
C'est une question, on va y venir, mais on va d'abord écouter le Premier ministre britannique, justement Rishi Sunak. Lui, il est sûr de son fait. Écoutez.
Our domestic courts will no longer be able to use any domestic or international law, including the Human Rights Act, to stop us removing illegal migrants. This bill blocks every single reason that has ever been used to prevent flights to Rwanda from taking off.
William T. Sauf qu'il y a eu beaucoup de condamnations internationales. Et ça aussi, ça peut-être décourager les Britanniques de le faire ou pas?
Alors, Rishi Sunak a des motivations internes très fortes qui, je pense, dépassent les considérations internationales. La question que vous posez, c'est est-ce que des avions vont décoller de Grande-Bretagne et du Rwanda? Je pense que oui, tout simplement, parce que lorsque vous prenez les différentes décisions qui ont été appliquées, donc celle de la Cour suprême de novembre 2023 qui dit la décision est contre les principes fondamentaux de la Grande-Bretagne en raison d'un point précis qui est que le Rwanda n'est pas considéré comme un pays sûr. Or, ce que comprend ce texte de loi, c'est qu'il dit le Rwanda est désormais considéré comme un pays sûr et donc par conséquent, le gouvernement britannique peut expulser quelqu'un en provenance de Britannique à distanciation du Rwanda. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'il y aura des recours individuels contre ce texte et éventuellement contre la décision d'expulsion? Il y a deux possibilités. Il y a un recours qui est interne aux Britanniques, mais le texte de loi limite les recours possibles et donc éventuellement, je pense que si les Britanniques veulent vraiment expulser quelqu'un, il y aura des expulsions parce que c'est la question que vous posez. Et il y a un autre recours qui est possible, c'est devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais il faut souligner un point, c'est que le recours n'est pas suspensif. Et donc en fait, pendant que la personne fait le recours, elle sera actuellement au Rwanda. Donc par rapport à ce qu'a dit Rishi Sunak, il est vraisemblable qu'à moins que le texte de loi soit retoqué par la Cour suprême d'Angleterre, eh ben le texte s'applique et surtout qu'il a besoin des résultats rapidement parce que les élections législatives anticipées vont arriver à l'automne prochain.
On parle d'à peu près quoi, 20 000 expulsions par an, c'est ça ?
Il vise 20 000 expulsions d'ici 5 ans pour espérer, arriver à des coûts d'expulsion qui soit moins cher qu'un coût d'hébergement en Grande-Bretagne. Seulement, il y a différentes difficultés. La première, c'est ce que j'évoquais, c'est est-ce que le texte ou tout l'ensemble du texte va être validé ou censuré? Et le deuxième point, c'est que les personnes qui ont une notification d'expulsion peuvent faire des recours individuels. Donc, en fonction des recours que vous faites au niveau interne et des fonctions que vous faites des recours devant la Cour européenne de Rwanda, ça peut augmenter le coût et donc limiter les effets de la mesure.
Didier Leschi, l'intérêt du Rwanda, quel est-il? En termes d'image, c'est peut-être dévastateur. Est-ce qu'il y a un intérêt financier? Quel est l'intérêt du pays?
Écoutez,
qu'il y a un demi-milliard a été négocié.
Je ne suis pas un spécialiste du Rwanda, mais je pense que le Rwanda veut apparaître comme un partenaire sérieux dans une zone où les Occidentaux perdent du terrain vis-à-vis d'autres pays ou d'autres puissances. On peut penser à la Chine ou à la Russie. Et donc, je pense que c'est ça leur intérêt. C'est,
un partenariat avec des investissements.
Il faut sans doute... Kigali, enfin le Rwanda, c'est une économie extrêmement dynamique. Et du reste, il y a par ailleurs des besoins de main-d'œuvre. Donc, la situation est pour eux celle d'un pays qui vise à se faire reconnaître et à réintégrer, d'une certaine manière, après des épisodes tragiques quand même.
Génocide des Tutsis, il y a 30 ans.
La communauté internationale, bon, je pense que c'est ça, mais franchement, je ne suis pas un spécialiste du Rwanda.
Camille Lecoz.
Oui, effectivement, il y a effectivement ce rôle de vouloir prendre part à la solution sur l'accueil des réfugiés, et le Rwanda, d'ailleurs, accueille aussi des personnes qui sont évacuées depuis la Libye. Donc, en ce sens, ils accueillent un certain nombre de réfugiés. Maintenant, c'est aussi un accord avec le Royaume-Uni, je pense, en termes de diplomatie. Mm-hmm. Et on voit bien que le Royaume-Uni a été étrangement silencieux sur ce qui se passait à l'est du Congo depuis quelques mois, même quelques années, avec les incursions du Rwanda. Maintenant, pour revenir quand même sur quoi est-ce que ce texte va servir. Comme je disais, sur la dissuasion, on n'a pas vu ses effets. Je pense que toute la recherche qui existe montre bien que ça ne fonctionne pas, en fait. Ça fait 2 ans qu'on parle de ce texte. Les arrivées sur les côtes britanniques n'ont pas cessé. Et surtout, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que c'est une brèche, c'est une percée dans le droit international, dans ces accords internationaux qui sont censés nous lier tous. Et l'Europe prend déjà une part quand même limitée sur l'accueil des réfugiés dans le monde. Et là, le Royaume-Uni explique que finalement, c'est déjà trop de personnes qu'ils accueillent.
Et puis, est-ce que ça va donner des idées à d'autres pays d'Europe? On en parle avec vous, Anna.
Oui, parce que beaucoup de pays sont intéressés. Le dernier projet de délocalisation de migrants le plus abouti, on va dire, c'est celui de l'Italie. Giorgia Meloni a signé un accord avec l'Albanie au mois de novembre de l'année dernière. Un accord qui prévoit la construction de 3 centres d'accueil sur le sol albanais, mais sous juridiction italienne. Et ces centres vont pouvoir accueillir dès le mois prochain jusqu'à 36 000 migrants par an. Ils vont permettre à la fois de faire un tri des demandeurs d'asile, mais aussi de faire patienter ceux dont le dossier sera refusé avant de les renvoyer dans leur pays d'origine. Alors la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié cet accord de modèle qui sort des sentiers battus. Et le groupe dont elle est issue au Parlement européen, le PPE, lui s'y est dit ouvertement favorable. Et d'autres pays semblent être séduits également. L'Allemagne est en train d'examiner la question. L'Autriche prévoit d'envoyer ces migrants dans un pays africain comme le Royaume-Uni, mais pour l'instant rien de concret. Et le Danemark a déjà adopté une loi en 2021 qui permet de traiter les demandes d'asile hors de l'Union européenne. Mais pour l'instant, le projet est en pause. William T., est-ce que voilà, ces projets, ça va devenir la norme en Europe dans les années à venir ?
Il y a un premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la crise migratoire n'a pas eu lieu et est à venir. Dans la mesure où la population africaine va doubler ou va tripler dans les prochaines années, qui vont faire face à des crises alimentaires, avec ce qu'on a connu avec la guerre en Ukraine qui limite l'envoi de blé, et ils vont faire face à des crises écologiques. Ça veut dire qu'inévitablement, vous aurez des mouvements de population. Et face aux tensions, ça arrive au deuxième point, c'est face aux tensions communautaires qu'on rencontre sur le territoire européen, notamment depuis le fait qu'Angela Merkel ait accepté 1 à 2 millions de personnes provenant de Syrie, on a vu globalement, ça arrive au troisième point, qu'il y a une montée des extrêmes droites et dit des populistes partout en Europe. C'est-à-dire que dans différents pays, vous avez une montée de l'extrême droite et de la droite qui montre qu'en fait, vous avez une grande partie des populations européennes, lorsque vous interrogez il y a 30 ans, est-ce que l'immigration est une chance ? Ils vous répondez oui. Maintenant, ils vous répondent tous qu'il y a trop d'étrangers dans leur pays, enfin en tout cas en majorité, et qu'ensuite après, quand on pose la question est-ce que l'immigration est une chance, ils sont plutôt sur une rhétorique négative.
Oui. Et donc pour vous, c'est...
Et donc du coup, j'y arrive. Ça veut dire qu'en fait, beaucoup de pays vont essayer de trouver des moyens pour combattre ce qu'on appelle l'impuissance publique en matière migratoire. Et on arrive en fait à ce texte, ou à différentes solutions qui sont proposées, c'est qu'en fait, vous avez des personnes qui disent nous venons sur un territoire, et même si notre demande est rejetée, eh ben, il reste quand même. Et la clé, c'est que comme il y a des difficultés en termes d'expulsion, les différents gouvernements, à travers le pacte asile-immigration qui a été voté au Parlement européen, considèrent qu'il faut non pas gérer les gestions de demandes d'asile, non pas sur son propre territoire pour éviter ce qu'on appelle des jungles de Calais, mais gérer les demandes d'asile à l'extérieur du territoire européen. Et on délègue à des pays tiers.
Camille Lecoz, vous avez l'air de...
Oui, oui, mais effectivement, on voit qu'il y a, comme vous le disiez, un appétit pour ce type d'accord, et je trouve que c'est quand même la force du Royaume-Uni. Ça fait 2 ans qu'ils échouent à mettre en place, à appliquer cet accord avec le Rwanda, et pourtant, ils ont ouvert la boîte à idées, ce qui fait qu'on a maintenant des États comme les Pays-Bas qui sont à la recherche de solutions innovantes. La Suède, vous avez mentionné d'autres pays, mais...
Emmanuel Macron a dit non matin pendant un grand discours sur l'Europe à la Sorbonne. Regardez quand même ce chiffre. En Europe, Frontex a enregistré 380 000 entrées irrégulières en 2023, le chiffre le plus élevé depuis 2016, une augmentation de 17% par rapport au chiffre de 2022.
C'est un chiffre qui ne veut rien dire.
Pourquoi ça ne veut rien dire ?
Mais parce que dans le même temps, on a eu plus d'un million de demandeurs d'asile qui, en première intention, qui se sont inscrits dans l'Union européenne, si vous voulez. Les 380 000, c'est ce qui est repéré par Frontex, et une partie de ces 380 000 sont dans les 1 million.
C'est plus important que cela, ou au contraire, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?
Bien sûr, c'est plus important.
C'est plus important.
On est revenu l'année dernière à peu près le même chiffre qu'en 2016.
Donc ce chiffre-là va nourrir certainement des politiques similaire à celle de
délocalisation,
celle dont on vient de parler, de délocalisation, de gestion.
Oui, enfin, c'est un autre débat, mais je veux dire, il ne faut pas se tromper sur les chiffres. Voilà. L'Europe n'est pas une forteresse. Mm-hmm. La part des immigrés dans la population européenne en pourcentage, elle est supérieure à ce qu'on peut trouver en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, si vous voulez. On est un continent et une union qui est plutôt ouverte. On a une migration légale importante. Mmh. Hein, et le problème, c'est l'immigration illégale qui est bien inférieure à la migration légale. Il ne faut jamais l'oublier, si vous voulez. Mais elle est spectaculaire, l'immigration qui arrive par bateau, si vous voulez. Et l'autre chose, c'est que le seul moyen de résoudre la crise, c'est qu'il y ait un partenariat, je dirais, plus fort et faire prendre conscience à un certain nombre de dirigeants des pays de départ que leur modèle économique, leur mode de développement, la manière dont ils organisent ou qu'ils n'organisent pas l'avenir de leurs jeunes est un problème à la fois pour eux et pour nous.
Mais est-ce que ça peut être dissuasif, alors, justement, pour Camille Lecoq, ça ne l'est pas? Mais vous pensez que ce genre de mesure peut être dissuasive justement à une immigration ou pas?
Non, mais de toute façon, il n'y a pas d'autre méthode de gestion de la migration qu'à un moment donné de la coercition. Voilà. Ah. La coercition, elle peut être discutée dans ses modalités. Le pacte asile-migration met en place des méthodes de coercition qui ne sont pas quelque chose qui va complètement à l'encontre de la Convention.
Je suis pas sûr que Camille Lecoq soit d'accord avec vous sur la coercition.
Et donc, il y a une différence entre le pacte européen, c'est-à-dire ce qu'on fait par exemple l'asile à Roissy, ce que propose le pacte européen, c'est ce qu'on fait tous les jours à Roissy, c'est-à-dire une zone qui est physiquement en Europe mais qui est juridiquement pas encore en Europe, et c'est très différent que de dire qu'on va exporter et l'asile en termes d'examen de la situation et les personnes elles-mêmes. Et donc là, il y a un saut, et qui n'est pas exactement ce que va faire l'Italie avec l'Albanie, puisque dans l'accord entre l'Albanie et l'Italie, ce seraient des officiers de protection italiens qui iraient en Albanie. Et ça veut dire qu'on relèverait toujours d'une juridiction européenne, ce qui est très différent de ce que veut faire l'Angleterre.
Pour soumettre une question à Camille Lecoq, qui évoquait un changement d'époque, je vous propose de regarder des images d'archives. Elles remontent à 2015 et à cette phrase célèbre d'Angela Merkel qui avait dit « Schaffen das, nous pouvons accueillir 1 million, voire plus d'un million, voire 2 millions de Syriens, de migrants du fait de la guerre en Syrie. » C'est les images qui arrivent. Sous les applaudissements des populations, en l'occurrence allemandes, qui les accueillaient, qui voulaient les nourrir et qui voulaient absolument cette intégration. Ça a changé, c'est fini, c'est impossible de revoir des images pareilles. Camille Lecoq. On a changé d'époque.
On a vu avec la crise des réfugiés ukrainiens, il y a eu des mobilisations, des opinions publiques européennes pour accueillir, pour organiser l'accueil, notamment l'accueil citoyen. Donc on voit bien que quand il y a une volonté politique, quand il y a une certaine couverture médiatique, les populations publiques peuvent s'organiser. Maintenant, là, ce qui est sûr, c'est pour revenir sur ces accords d'externalisation de l'asile, simplement que ça ne marche pas, en fait. Jusqu'à présent, aucun de ces modèles n'a été mis en œuvre. Ils coûtent extrêmement cher. Et puis, pour revenir sur ce que...
Lesquels n'ont pas marché, pardon, Camille Lecoq?
L'accord avec le Rwanda n'a jamais été mis en œuvre. L'accord avec l'Albanie n'a pas encore été mis en œuvre.
Oui, d'accord, mais on n'a pas de modèles passés qui ont échoué.
Aucun n'a été... Je veux dire,
il n'y a pas d'application, mais pour l'instant, on n'a pas de leçon d'expérience, j'allais dire.
J'ai envie de dire, l'expérience de 2 ans d'échec du gouvernement britannique me semble quand même parlant pour dire que ce type d'accord coûte extrêmement cher. Et voilà, on bloque sur ça.
Le gouvernement danois avait essayé, n'a pas réussi.
Et on cherche, et y a vraiment cette illusion qu'on va pouvoir trouver des pays partenaires qui vont être d'accord. Et on voit bien que les pays d'Afrique du Nord ont dit non. Eux, on leur donne déjà beaucoup d'argent pour qu'ils gèrent les frontières. Ils ne vont pas en plus gérer nos demandes d'asile.
William T.
Il y a un premier point, c'est que la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce que différents pays font ça? Tout simplement, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas accueillir d'immigration. On a accueilli beaucoup de réfugiés ukrainiens.
5 millions au total en Europe.
Tout à fait. C'est qu'en fait, les peuples européens, dans toutes les enquêtes d'opinion, montrent qu'ils ne veulent pas subir l'immigration, mais ils veulent la choisir. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire imposer, donc des gens qui viennent et qui disent je décide, je suis là, maintenant je reste, même si la demande d'asile a été déboutée et rejetée par le pays en question. Le deuxième point, c'est que par rapport à l'accord que vous énoncez, c'est qu'il y a un effet psychologique très fort en matière migratoire. Moi, je cite tout le temps le même chiffre. Lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis en novembre 2016, 40% des demandes de visa ont chuté aux États-Unis. Vous allez me dire, mais il n'était pas président à ce moment-là. Entre le 8 novembre et en janvier, comme vous le savez, il y a une période de transition, donc Donald Trump n'est pas président des États-Unis. Mais juste l'effet psychologique par rapport aux campagnes qu'il a tenues, donc on sait tous quelle était la teneur, ont montré qu'en fait, les gens se sont dit, avec Donald Trump, on ne pourra pas faire de demande d'asile. Et notamment parce qu'il avait en tête un projet qui s'appelait le Muslim Ban, notamment, donc il y avait des demandes de baisse très fortes en provenance des pays du Maghreb et des pays du Moyen-Orient. Le troisième point important, c'est qu'en fait, les gens se disent, comme on ne veut pas traiter les demandes d'immigration chez nous, la question du Rwanda, la question de l'Albanie pour l'Italie doit être complémentaire et doit être vue avec un ensemble de points. C'est-à-dire que lorsque vous prenez en place cette mesure, il y a une autre mesure qui n'a pas été évoquée, c'est le fait que Rishi Sunak a indiqué que toutes les personnes qui venaient de manière irrégulière au Royaume-Uni n'avaient aucune chance d'être naturalisées et aucune chance d'être régularisées. Et l'idée, c'est de dire aux personnes, vous allez prendre un risque très important en traversant la Méditerranée, vous allez prendre un deuxième risque très important en traversant la Manche. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette considération, ce risque-là, en tant qu'acteur rationnel, alors que votre chance d'être admis sur le territoire britannique est beaucoup plus faible qu'auparavant?
Didier Leschi, avec la poussée de l'extrême droite qu'on attend dans de nombreux pays européens à l'occasion des élections à venir du 9 juin, est-ce que vous pensez justement que cette loi rwandaise, elle peut trouver plus facilement des amis, peut faire changer le Parlement européen d'avis et de corser le pacte asile et migration qui vient à peine d'être voté dans le sens britannique?
Corser le pacte asile et migration, on va voir, sans doute, il y a deux ans de mise en œuvre, hein, puisqu'il vient d'être voté, mais il ne sera mis en œuvre véritablement qu'en 2026. Mais la question qui était posée, c'est de savoir si on pourrait avoir de nouveau les images comme on a vu en Allemagne. Et la difficulté du débat, c'est que...
L'âge de 2015.
Les images de 2015, c'est que une partie des immigrés servent un peu de révélateur de difficultés sociales dont ils ne sont pas responsables, mais dont ils peuvent être en même temps victimes comme d'autres. L'exemple type, et c'est tous les débats dans un certain nombre de pays, on a beaucoup de discussions sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui pèse sur le pouvoir d'achat? C'est le logement. On a une crise profonde du logement, et quand on a 50 000 demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugié, il faut les loger dans une dynamique où on a une rareté qui fait monter les prix du logement, et donc il y a des difficultés d'intégration.
Qui exacerbent les opinions.
Et c'est pareil pour le travail. On a, c'est le problème de l'immigration choisie qui en réalité, la vraie dynamique en Europe, c'est celle de vouloir une immigration choisie.
Camille Lecoz, quel est fait?
C'est ce que font les Allemands, c'est ce qu'en réalité sont en train de faire les Italiens. Et ce qu'on ne veut pas, c'est à la fois les pas choisis qui sont les moins formés et qui ne sont pas directement.
Alors justement, est-ce que Camille Lecoz, le 9 juin, ça veut dire quoi? L'immigration choisie, si en effet il y a cette poussée populiste, c'est ça qui attend l'Europe?
C'est qu'on va avoir une commission certainement plus à droite, avec une commission qui d'un côté a poussé pour l'adoption de ce nouveau pacte. Donc comme Didier Leschi le rappelait, on a deux ans pour le mettre en œuvre. Et effectivement, si dans le même temps, il y a tous ces efforts pour négocier des accords à l'échelle bilatérale avec l'Italie qui va négocier avec l'Albanie et d'autres, il va y avoir une dispersion des efforts, que ce soit au niveau diplomatique, puisqu'une grosse question du pacte, c'est comment est-ce qu'on organise les retours et les réadmissions. Donc on ne peut pas au même moment aller demander à un État est-ce que vous pouvez reprendre vos nationaux, et puis en plus, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut aussi vous envoyer d'autres demandeurs d'asile, et puis aussi en termes de ressources. Donc on voit bien qu'à un moment où, du côté européen, la Commission aurait besoin de cohésion, d'un élan européen, là on se retrouve à chercher des solutions en dehors de l'Europe. Pour l'avenir.
Pour l'avenir. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.